Alors Vito et toute l'équipe, je ne sais pas comment vous allez fonctionner.
Voilà, merci. Ok, donc une courte introduction et puis après j'appellerai les uns les autres à témoigner de ce qu'on a vécu, à tour de rôle, et puis, éventuellement je ferai une petite conclusion derrière. Donc l'année dernière, on a marché jusqu'à Lyon et on savait que la porte était ouverte, les choses s'étaient passées. On a vu ces connexions avec la Suisse se mettre en route d'une manière assez incroyable. Donc je vais aller assez vite là-dessus. Beaucoup de choses ont démarré avant la marche, parce qu'on ne démarre pas ce genre de choses sans que les choses naissent au fond de notre cœur. Et une des choses que je peux partager déjà maintenant, mais qui va être un signe qui nous a suivi durant toute la marche et après, c'était la pluie. Et on était là avec le petit groupe pour préparer le dimanche et j'ai partagé à quel point la terre de France était sèche. Ils en avaient parlé encore la veille aux informations, donc c'était le 5-6 avril. Ils montraient une région de France où une rivière, c'est dans le sud de la France, au moment où il y avait 5 mètres d'eau, il y a un filet d'eau qui coule encore plus que 2 mois par an là-bas. Et ça se passe en France. Et on a vu que cette terre était tellement desséchée que la première chose que Dieu voulait faire, parce que dans mon idée au départ, c'était marche de printemps, agréable, beau soleil, pas trop chaud comme en été, pas trop de pluie, ça va, petite marche sympathique, on va y aller tranquillement, le fer au fusil, ça va être romantique, c'est joli, les mimosas, tout ça. C'était pas vraiment ce que Dieu avait prévu et avant de partir, je m'attendais vraiment à la pluie et la pluie en abondance. Et elle nous a accompagnés par devant, derrière, au-dessus. Donc quand Dieu nous dit qu'il nous est partout devant, bah, on a pu le vivre et on a eu cette merveilleuse vision de voir cette terre de France être abreuvée, les ressources et les rivières partout se remplir. La terre était verte, il y avait partout ça poussait. Alors que moi j'ai traversé tellement de fois dans cette région, comme tout le monde, hein, je pense beaucoup ont été dans le sud de la France, tellement jaune, c'est joli, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce qu'il y a une désécheresse, et là les rivières se remplissaient. Et ça a été un des signes pour moi qui m'a accompagné durant toute la marche, parce que cette terre a besoin d'être abreuvée. Alors, comprenez bien, c'est pas parce que Vito a prié que la pluie est tombée. C'est pas parce que l'équipe a marché que la pluie est tombée. C'est parce que c'était dans le cœur du Père de faire arroser cette terre. Pourquoi ? Parce que il y a énormément de semences qui doivent germer. Et notre cri sur cette terre aussi, ceux qui ont lu le petit document que j'avais fait ont pu le voir, on nous a volé tellement de choses. Notre mémoire nous a été volée. Notre passé, notre héritage nous a été volé. Et ces héritages sont enfouis dans notre terre, mais il est temps de dire à l'ennemi, restitue. Et quand on commence à dire restitue, qu'est-ce qui va commencer à se faire? Tout ne va pas venir comme ça. Ça va commencer par germer, et ça va revenir à la vie. Et cette pluie a arrosé pour que les choses qu'on a commencé à dire restitue, puissent germer, et germer en abondance. Pourquoi on est aussi parti? C'est vrai que l'Église reprenne son héritage, mais en même temps, quand on fait ce genre de choses, on le fait parce qu'on a un amour profond. Je dis, on ne fait pas ce genre de choses parce que c'est lourd, parce qu'il faut le faire, sinon ce n'est pas la peine, ce n'est pas un devoir de faire ces choses, mais parce que l'amour de Christ nous étreint et nous pousse à faire cela. Dans ce que j'avais écrit aussi, j'avais rappelé que, vous savez, ce fameux passage qu'on me dit, le fameux commandement, tout le monde me dit nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas le commandement nouveau. Ça, c'est un commandement qui est ancien. Si vous regardez le rapport entre les pharisiens et Jésus, les pharisiens étaient courants de ce commandement. Même quand Jésus le cite, ils sont pas choqués. Et vous en retrouvez une partie dans Deutéronome 6. Tu aimeras ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et il va parler après de lier ces choses. Et l'autre, c'est dans Lévitique 19, je crois, 11, je ne sais plus, où il est parlé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce sont des commandements anciens. Le problème, c'est quand on ne s'aime pas soi-même, alors on ne peut pas aimer, parce qu'on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu a mis la barre beaucoup plus haut, il dit, mais tu aimeras ton prochain comme moi je t'ai aimé. Le commandement nouveau, c'est Jésus qui va le donner, il va dire, tu aimeras ton prochain comme moi je t'ai aimé. Et quand on commence à aimer les autres comme Jésus nous a aimés, alors les choses sont différentes. Parce que j'aurais aimé moi-même comme Jésus m'a aimé. Comme moi-même, c'est une mesure d'homme. Comme Jésus m'a aimé, c'est une mesure de Dieu. Et du coup, je n'ai même pas le droit de ne de pas m'aimer. Parce que j'ai donné un commandement, aime-toi comme je t'ai aimé. Et puis, j'ai aimé mon prochain, mais aussi cette terre. Et Jésus est mort pour que les nations... Rappelez-vous, nous sommes appelés à être une maison de prière pour les nations. Et durant cette marche, on a commencé à être maison de prière pour la nation de France, mais aussi pour les nations du Sud. On voyait Israël, on voyait l'Amérique, l'Afrique. L'Amérique était tellement présente. Voilà, juste quelques pensées concernant cette marche. Comprendre que c'est l'amour de Christ qui nous éteint pour la terre. Et plus on marchait sur la terre, plus l'amour pour la terre devait... Honnêtement, si je pouvais rester tout en dehors, moi je resterais tout en dehors. C'est difficile de rentrer entre les quatre murs. Je meurs à l'intérieur. Quand je suis assis après toute la semaine entre quatre murs, que je vois plus que les murs, même si c'est dans un boulot, mais quelque chose de mon corps qui n'est pas d'accord. Mon corps, il dit, va voir dehors si tu y es. Mon âme a envie d'être dehors et puis je suis à l'intérieur. Waouh. Voilà, je vais m'arrêter sur cette courte introduction parce que je vais laisser la place à d'autres de ce qu'ils ont vécu. Et je crois que la richesse est aussi dans la complémentarité de ce que chacun a pu voir, vivre. C'est difficile. J'ai fait un témoignage à ma cellule l'autre soir. En une heure et demie, je me suis rendu compte un pâle résumé de ce qu'on a vécu. Donc, merci d'écouter. Merci aussi pour le prochain se prépare, peut déjà venir. Pour ce message qui va être forcément partiel, mais on veut croire que Dieu va semer aujourd'hui au travers de ces quelques mots.
Alors, comme disait Vito, on était donc une semaine, donc il y a beaucoup de choses, il fallait choisir. Alors, je dis, Seigneur, que veux-tu que je parle? Parce que c'était tellement grand et puis riche. Alors, je vais juste vous raconter donc un passage que j'ai vécu, que nous avons vécu. Donc, le matin, dans mon temps de prière, j'avais reçu cette pensée, restitution des écoles chrétiennes. Puis, je l'ai gardée pour moi. Et puis, ce matin-là, on était donc sur l'île sur Saône, et je marchais avec Vito. Puis Vito, en marchant, me raconte, tu sais, Jocelyne, ici, dans ce lieu, il y a beaucoup d'écoles qui ont été détruites. Et... Alors je lui dis, mais c'est incroyable, parce que ce matin, j'ai reçu cette parole, cette pensée de la part de Dieu. Et alors tous les deux, nous avons demandé restitution des écoles chrétiennes. Et... Ce qui était fort après, c'est que j'avais encore reçu une autre pensée et c'était la terre qui parlait. Et la terre, elle disait, ce morceau de terre est surprise de ce que nous faisons et agréablement surprise. Et la terre disait, merci d'avoir encore béni. J'attendais cela car il manquait une mesure pour que je puisse recevoir tout ce que le Créateur a voulu pour moi. Et là, j'avais vraiment compris que le morceau qui manquait, la mesure qui manquait, c'était appeler les écoles chrétiennes dans ce lieu. Alors, ça a été formidable de pouvoir, d'avoir pu redemander restitution par rapport aux écoles chrétiennes. Voilà, ça c'est un petit truc. Mais j'avais envie aussi de dire deux choses. J'ai trouvé ça formidable, c'est qu'en rentrant aux infos, je sais pas dans, je pense que c'est dû par rapport au temps, j'entends juste cette phrase qui disait que la pluie était le sang de la terre. Waouh, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on... Et oui, si cette pluie n'était pas là, la terre ne pourrait pas vivre, et ce sang qui purifie, qui donne, qui germe, enfin, waouh, j'ai dit, Seigneur, c'est... Enfin, moi, ça m'a... J'ai sauté de joie. Je trouve ça super. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire, parce que j'avais tellement de choses. Bon, juste, alors, à la fin, dans la voiture, et j'ai reçu le psaume 85. Alors, vous le lirez complètement, mais moi, je vous dis juste la fin, parce que ça va vraiment avec tout ce que je viens de dire. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Alléluia. La fidélité germe de la terre. et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Waouh ! Voilà, je suis là parce que c'est vraiment ce que Dieu a fait.
Voilà. Suivant ou suivante. Super.
Alors moi, c'est la deuxième marche que je fais. J'ai déjà fait la marche d'Alsace. Et puis, en faisant cette deuxième marche, il y a vraiment des choses qui sont... des révélations qui nous sont, qui nous ont été données beaucoup plus profondément. Et c'est ces choses-là que je voudrais vous partager. On a senti qu'on avait grandi dans l'autorité, mais aussi dans la révélation de marcher sur la terre. Et donc je voudrais vous partager ça. Je voudrais juste faire un rappel par rapport à ce que Robert Blancou avait partagé lorsqu'il était venu un dimanche. Il avait simplement expliqué donc Dieu a créé le ciel et la terre, et quand dans la Bible il est question de la création du ciel et de la terre, pardon, il rappelait simplement que le ciel ça parle des choses spirituelles et puis la terre ça parle des choses matérielles, physiques que l'on voit, et qu'au milieu de tout ça, eh bien il a placé l'homme qui lui-même est créé de la terre, donc avec un corps matériel, et qui est créé aussi avec un esprit donc spirituel. Et donc Dieu a placé l'homme au milieu de la création avec un rôle de passerelle, entre un rôle de charnière, enfin ouais, entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Et on a vraiment on a senti vraiment combien c'est cette position, cette place, on était rentré dans cette destinée, parce que c'est la destinée de l'homme finalement de parler les choses spirituelles à la terre. Donc il y a eu plusieurs paroles qui ont été vraiment très fortes, qu'on a reçues au fur et à mesure. Enfin, moi personnellement, ça m'a énormément parlé, parce que j'ai compris tout à fait comment la destinée de l'homme, c'est d'appeler la réconciliation sur la terre et d'amener la création à être réconciliée avec le Rédempteur. Et notamment l'œuvre de la croix, quand Jésus a dit « tout est accompli », je sentais combien on devait le proclamer à la terre, ce que l'œuvre de justice que Jésus a accomplie pour nous, il l'a accomplie aussi pour la terre. Et donc, vraiment, enfin moi j'étais poussée à proclamer, puis je pense que d'autres aussi, simplement à parler à la terre et à lui dire « l'œuvre que Jésus a faite ». Elle est aussi pour toi. Le sang, il est aussi pour toi. La vie, la résurrection, c'est aussi pour toi. Et le dernier cri, le cri de Jésus quand il a dit « tout est accompli », c'est aussi pour toi, terre. Tout est accompli pour toi. Et donc, je sentais vraiment qu'on a cet héritage. Et donc, notamment dans le psaume 16, il est question... notre part d'héritage est merveilleux. Enfin, on avait vraiment ce désir de proclamer à la terre « ton héritage est merveilleux, ton héritage, eh bien, c'est déjà quelque chose d'accompli, quoi, et on rappelle cet héritage pour toi, on veut que tu rentres dans ton héritage, terre de France. » Et un des versets, je vais y arriver. C'est dur, hein? C'est dur de parler devant le micro. Donc, un des versets clés C'était donc, c'est dans Romains 8 qui dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Enfin, la création attend la révélation des fils de Dieu. Et ce que moi, j'avais jamais réalisé, c'est que juste avant, il est dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Et donc, cet esprit qui nous fait crier « Abba, Père ». Et en fait, c'est cette révélation qui doit s'incarner en nous et que la terre attend. Et en fait, on a vraiment marché dans cette révélation. On a senti qu'on marchait simplement en fils et en fille de Dieu, avec le tout accompli de Dieu en nous, et qu'au fur et à mesure qu'on marchait sur la terre, et bien simplement nos pas d'obéissance ramenaient la vie, cette révélation en nous, on l'a portée, et que cette terre, elle soupirait après cette révélation, elle buvait et elle recevait cette révélation. Et donc je pense qu'on a grandi dans l'autorité de marcher en tant que fils et fils de Dieu, et qu'on portait cet héritage en nous, on est ces vases fragiles, mais qu'on porte le nom de Dieu, on porte la résurrection de Christ en nous, on porte la puissance de Christ en nous, et au fur et à mesure qu'on marche sur la terre, eh bien la vie elle reprend, et les choses qui sommeillent dans la terre, eh bien elles sont ramenées à la vie, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'on voyait cette semence, parce que cette terre elle est riche d'une semence que nos pères ont semée, ne serait-ce que du temps des Huguenots, les enfants prophètes, etc. Et on sentait vraiment que cette terre, elle était riche de cette semence, et que simplement nous, le fait de passer, ça réveillait la semence, ça la ramenait à la vie. Et on attend vraiment que, eh bien, les fruits maintenant, hein, on croit vraiment que les fruits vont venir. Et comme disait Vito, c'est vrai qu'il a plu, et cette pluie, on sentait qu'elle redonnait, que ce que nous on semait, eh bien Dieu ensuite fertilisait et donnait la fécondation, enfin la puissance de vie pour donner naissance à ce qui était semé. Ça va, chef? Ouais, c'est tout. Juste. Vous avez quelques photos là, et moi j'ai fait quelques dessins, quelques aquarelles, mais je suis désolée, on les voit pas bien, mais non, on les voit pas. On peut rien faire. Eh ben, tant pis.
Quelqu'un d'autre?
C'est bien.
Anne, faut venir, hein, on n'a pas de temps, donc venez, viens. Je fais pas juste le relais, mais je finirai après. On va parler, hein.
Oui, je voudrais vraiment appuyer sur ce qu'a dit Béné, parce qu'on a toutes les deux un ressenti très, très complémentaire, très presque similaire. On a vraiment, je veux dire, c'est aussi pour toute l'Église, hein, c'est pas que pour les marcheurs, parce qu'on est tous Église Josué, et puis Josué, c'est celui qui prend du terrain. Et on a vraiment un voile qui s'est enlevé par rapport à la Bible. Vous voyez, c'est la parole, l'esprit, et ce qu'on a fait, c'est indissoluble, quoi. Alors, pour vous donner, on était quelques-uns dans l'équipe, on marchait avec la bouteille d'eau en bandoulière et la Bible, parce que c'est trop bien de proclamer la parole, et puis on la voit d'une toute nouvelle manière. Et on a beaucoup médité aussi les fondements bibliques, parce que ces marches, c'est pas juste des sentiments, des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment fondé bibliquement. Et on a beaucoup médité le message de Luc de juin 2006, que je vous rappelle, juin 2006, il est sur le site. Le message de Luc de dimanche dernier, qui a rajouté une autre dimension. Et puis aussi le message de Mourad Ziani, qui parlait des bénédictions d'Abraham, auxquelles on avait tous droit, vous savez. Et il y avait la triple bénédiction, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ont, qui ont besoin de rappel, c'est la bénédiction... Allez, je vous demande. 3. Il y avait la triple bénédiction d'Abraham, c'est, il y avait la territoriale, donc prendre du terrain, c'est ce qu'on fait avec les marches. Il y avait la financière et la relationnelle. Triple bénédiction. Alors nous, on a, c'était la bénédiction territoriale qu'on a vraiment expérimentée, dans laquelle on est entré, quoi. Donc pour dire, c'est vraiment un fondement biblique. Et puis je vous assure que la Bible, on la voit d'une toute nouvelle manière. Il y a plein de passages qu'on est passé. Moi, cette année, en avril, j'ai 30 ans de conversion, vous voyez. Eh bien, il y a plein de passages que j'avais jamais, jamais, jamais vu comme ça. Et par exemple, je vous donnerai un passage qu'on a beaucoup reçu pendant la marche, Joël 2. Est-ce qu'on a le droit de parler à la terre? Bien sûr qu'on a le droit de parler à la terre. On n'est pas des farfelus bizarroïdes complètement déjantés. On a le droit de parler à la terre, c'est biblique, c'est dans la parole, Joël 2. Alors, c'était trop bien. Alors, on l'a dit réellement sur le terrain, on l'a dit à la terre, Joël 2. Et Joël 2, il nous dit « Terre, terre, ne crains pas. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. » Et ça, je vous assure, quand on dit entre quatre murs, c'est quelque chose. Mais quand on dit dehors, en plein air, avec la terre devant les yeux, c'est autre chose. En plein de paysage, en plus. « Terre, ne crains pas. Réjouis-toi, toi dans l'allégresse. » Et puis, il y a plein de choses comme ça, mais on a le droit de s'adresser à la terre. Et elle reçoit... On sent cette, comme disait Béné, cette satisfaction de la terre qui reçoit la grande bénédiction de la parole de Dieu, la parole prophétique. Et puis aussi le psaume 65, par rapport à la pluie, il y a beaucoup plus, ça c'est vrai. Psaume 65, pareil, les psaumes, on les lit, on les relit depuis 30 ans, et puis tout à coup on dit, ça c'est en vrai, c'est pas que hyper spirituel dans les lieux célestes, c'est en vrai. Écoutez ce verset, tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens, tes pas, donc c'est nous, hein, nous, Christ est en nous, donc c'est les pas de Dieu en nous, tes pas versent l'abondance. Alors c'est fabuleux de se dire que partout où on marche, derrière il y a l'abondance. Et les ruisseaux sont pleins d'eau, et puis c'est une abondance matérielle et spirituelle. On a aussi beaucoup, beaucoup lu Cantique des Cantiques, notamment dans la Drôme. La Drôme, c'était quand même, je crois que vous n'avez pas encore parlé de la Drôme, c'est Manu va vous en parler. C'est un endroit plein de semences. C'est un endroit qui a été visité par les premiers chrétiens, par la Réforme. Et puis il y a eu un grand réveil dans les années 1920-1930, avec une consécration totale à Dieu. Dieu d'abord, c'est un cri qui a retenti dans les campagnes, parmi les paysans de la Drôme. Vraiment, c'est une terre bénie, quoi. Mais en même temps, c'est un peuple qui a souffert et qui était dans les grottes. Qui est caché, vous voyez, spirituellement, il est caché, il est recroquevillé. Alors nous, on allait sur les routes de la Drôme, et puis on proclamait Cantique des Cantiques, vous savez, ma colombe, sors qui te cache dans les fentes du rocher, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, et puis on le disait, quoi, sur les routes de la Drôme. Et puis, bon, et après, il y a l'histoire des renards, bon, peut-être que quelqu'un va se faire un plaisir de raconter l'histoire du renard, parce que c'était en vrai aussi, l'histoire des renards. Donc voilà, on a dit en vrai, et puis alors, aussi un autre passage dans Cantique des Cantiques, vous savez, la Drôme, c'est une terre, pour ceux qui connaissent, c'est une terre pleine d'épices. Il y a le thym, il y a le romarin, il y a la lavande, enfin c'est une terre d'épices. Et puis il y a eu ce passage, vous savez, ça parle il y a les épices dans le naturel, et puis il y a aussi tous les parfums de louange, d'adoration qui doivent monter de cette terre dans le spirituel. Mais les deux sont reliés. Alors à un moment donné, j'avais jamais vu ce passage, souffle, vous savez, dans Cantique des Cantiques 4, chapitre 4, lève-toi Aquilon, viens au temps. Autant, c'est le vent du sud, et alors c'est un vent qui fait mûrir, vous voyez. Et bien, on a réellement eu le vent du sud, celui qui nous soufflait d'ailleurs, parce que comme nous, on venait du nord, vous voyez, le sud, il fallait vraiment aller contre le vent, mais c'est un vent du sud qui fait mûrir. Alors, il fait mûrir dans le naturel, mais aussi dans le spirituel, toutes les semences qui sont là, on les appelait à la vie pour qu'elles germent, qu'elles grandissent. Et puis, lève-toi Aquilon, on a eu aussi le vent du nord, et le vent du nord, c'est celui qui rafraîchit. Vous voyez, tout devient extrêmement, extrêmement concret. Et du coup, notre fameux dualisme, vous savez, où il y a d'un côté le spirituel, de l'autre le matériel, puis un grand, grand fossé au milieu, ce grand fossé, il est comblé, quoi. Le concret et le spirituel, ça va vraiment ensemble. On a une toute nouvelle révélation de Dieu, quoi. Après, on ne peut plus se balader tranquillement, on voit les choses complètement, on a envie de prophétiser sans arrêt, quoi. Mais on a un sujet de prière, j'avais beaucoup à cœur, et plusieurs dans l'équipe aussi, on appelle les compagnies de prophètes. On les appelle parce qu'on sent cette soif de la terre de France, elle a besoin que des compagnies de prophètes sillonnent la terre, parce que c'est une telle bénédiction, c'est restitution des anciennes semences, des anciennes sources, c'est fabuleux, quoi. Ça, la terre, elle revit, quoi. Elle est satisfaite, il y a une grande bénédiction derrière. Donc on appelle à la multiplication des compagnies de prophètes, sachant que c'est un signe de changement d'autorité. Peut-être Manu, tu vas en parler, hein. Le changement d'autorité qui vient sur notre pays. Voilà. Et puis, une chose très importante aussi, c'est l'unité, l'amour. Alors vraiment un grand, grand merci aux intercesseurs. On a senti cette grâce qui nous couvrait. Et c'est à cause de votre intercession, c'est sûr, hein, c'est pas naturel. On était tous, il y a une unité, un amour entre nous, c'était fabuleux, quoi. Alors vraiment, on vous remercie, et puis au suivant.
Merci, au suivant.
Oui, moi j'ai très peu marché, parce que, enfin, j'ai pu quand même encourager les autres, principalement. Quand je suis arrivée à Saint-Paul, les Trois Châteaux, le Seigneur m'avait donné une vision d'un grand fleuve, mais qui était vraiment, l'eau était boueuse et sale, enfin vraiment affreuse. Et par après, j'ai eu une vision où d'une cascade, mais c'était une cascade qui c'était comme une rivière. Cette cascade, c'était une rivière avec une eau pure, une eau limpide qui descendait, qui lavait donc, qui lavait pour laver la terre, pour laver. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, je crois aussi en ce qui concerne notre manière de voir, notre manière d'étudier la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a une profondeur là aussi qui est rentrée. Il y a une prise de conscience que moi personnellement je n'avais pas auparavant. En ce qui concerne la parole de Dieu, et comme le disaient Anne et Vito, quand on parle à la terre, il y a des choses qui se produisent, il y a des choses qui se font. Voilà. C'était très court.
Ben moi, ça ne sera pas très long non plus. En fait, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'Anne a partagé, c'était les renards. Pour moi, Vito disait tout à l'heure que la pluie, c'était un signe qui nous a accompagnés tout le long de la marche. Et en fait, cette marche, elle a été caractérisée par... une manifestation tangible des choses proclamées. Et cet épisode du renard, on avait marché la veille avec Jocelyne, et tout à coup on a vu un animal roux qui a traversé la route, et Jocelyne a proclamé ce verset du chapitre 2 du Cantique des Cantiques, le verset 15, sur les petits renards qui ravagent les vignes, parce qu'elle avait pris cet animal pour un renard. En fait, c'était un chat roux, style caramel, le chat de Béné. Mais bon, elle avait proclamé. Et le lendemain matin, je crois que c'était, on retournait sur Valréas. Sur le bord de la route, il y avait un renard. Il est là ? Ah ben, il est là. Ça tombe bien. Et en fait, on était trois voitures, celle de Vito qui était bleue, celle de Pascal et Marie-France blanche, et Françoise qui avait la sienne, la rouge. On avait le drapeau français. Nous, on était dans la voiture de Françoise, la troisième voiture, la rouge. Et Vito a évité le renard. Marie-France et Pascal ont évité le renard. Oui, Marie-France. Et puis Françoise, paf! Elle se chope le renard, et comme son bas de caisse est tellement bas, ben le renard, on a tout de suite senti qu'il était sous la voiture. Seulement, je pense qu'il n'était pas seulement sous la voiture, parce que pendant qu'on se rendait, on a traversé toute la ville pour se rendre au point de départ, et en regardant par la fenêtre, je voyais des gens à leur fenêtre, mais qui avaient des regards comme ça. Et je pense que le renard, il n'était pas resté sous le bas de caisse. Il était déjà visible, il était à l'arrière. Et quand on s'est garé, c'était devant une coopérative agricole. Les deux premières voitures ont fait demi-tour, puis nous, on arrive. Et je voyais les passagers de la voiture de Vito avec les yeux exorbités, parce que eux étaient en train de voir le renard qu'on avait traîné tout le long. Et pour moi, c'était vraiment une manifestation tangible des choses proclamées. Ça a été la caractéristique de cette marche. Une autre chose, ça a été l'arrivée à Istres, comme le partageait Manuela tout à l'heure. Quand on est arrivé, il y avait des victuailles sur le côté, dans le couloir. Bon, je m'étais dit, l'église, ils font une réception, quelque chose, ils ont plein de choses. En fait, toutes ces victuailles, elles étaient pour nous. C'était, on n'en revenait pas. On était bénis en arrivant là-bas, c'était super. Et une dernière chose que je voulais partager, à Marseille, on avait prié sur les lignes lait parce qu'il y avait un alignement entre la statue, la Notre-Dame de la Garde, l'hôtel de ville et une basilique à côté de laquelle on était passé. Et ensuite, on s'est scindé en trois et chacun a été marché et proclamé de son côté. Et Janet, qui était avec nous, m'a dit « Viens, on va danser ». Et on a dansé et quand on a fini, elle m'a dit « En fait, la créativité, elle donne une autorité contre l'esprit religieux ».
Juste une chose par rapport au verset, on avait aussi reçu la veille aussi. Tu peux venir, je vais poser deux secondes. C'était que Dieu faisait de nous un traîneau aigu, tout neuf, avec les pointes, etc. Donc ça collait avec le traîneau, il y avait les renards, mais le traîneau qui était avec. Donc ce qui avait été proclamé la veille est devenu complètement une réalité le lendemain.
Et on l'a proclamé dans la voiture. Hein. On s'est dit, tiens, ça c'est le verset. Nous sommes ce chariot. Comme l'ont dit déjà plusieurs, hein, c'est vrai que ça a vraiment incarné. Et vous savez Vito nous rappelait pendant la marche que les compagnies de prophètes, quand elles allaient au temps de Saül, elles annonçaient en fait un changement de gouvernement. Et du coup, c'était très intéressant parce que, bon, d'abord, quand on était dans la Drôme, moi, je les ai rejoints seulement le troisième jour. Et dans la Drôme, à un moment donné, on est venu dans cette terre de Saou. Donc Saou, Vito certainement le racontera mieux. Mais j'ai eu un besoin de me coucher par terre. Et c'était une terre qui était magnifique, qui était pure. Vous aviez pas peur de vous coucher en disant, oh là là, je vais me salir. Elle semblait vraiment riche. On sentait toutes les semences. Et là, bon, j'ai pas réfléchi. C'était plus fort que moi. Il fallait que je me couche. Et je sentais comme la terre qui me communiquait ses entrailles. C'était vraiment un temps fort. On est resté là, couché un long moment. Et on recevait. Et en fait, Saou, c'était vraiment, tu diras mieux ce que c'est parce que tu le sais mieux que moi. Mais en tout cas, pour moi, quand je suis partie toutes les semaines qui ont précédé la marche, j'ai beaucoup bataillé avec justement le Père, le repos dans le Père, arrêter d'être dans le faire, mais arriver à être dans l'être. Et quand on priait, j'entendais souvent les gens, j'entendais mes prières et j'avais l'impression que mes prières c'était toujours le faire. Et j'entendais les autres prier et j'entendais que eux, ils priaient la présence de Dieu. Je me dis vraiment, est-ce qu'un jour ça va venir ? Et puis le fait d'avoir proclamé comme ça vraiment le tout accompli, ce tout accompli aussi, c'était un verset clé. Et puis on a tellement dit à la terre, tu n'es plus rejeté, tu es appelé épousé. Tu n'es plus abandonné, tu es appelé épousé. Et une fois qu'on a quitté la Drôme, on est rentré dans l'enclave des papes. Et alors c'était étonnant parce qu'on rentre dans l'enclave des papes, alors tout semblait magnifique, les arbres étaient magnifiques, tout avait, on voyait l'opulence, en apparence c'était magnifique. Je dis, Seigneur, tiens, toi tu dis que cette terre est désolée, mais c'est bizarre, tout a l'air si magnifique. Et puis on rentre, la première ville, la ville porte, Valréas, juste après qu'on ait traîné le renard. Et puis Janet avait besoin d'aller à la pharmacie, je dis, tu sais Janet, un dimanche, les pharmacies, tu peux te lever de bonne heure, il y en a une tous les trois villages, mais enfin bon, dès qu'on en trouve une, on regardera, hein. Puis la première où on s'arrête, elle était ouverte. Je savais que tu étais bénie, mais là, c'est confirmé. Et puis donc, pendant qu'elle rentrait dans la pharmacie, je regarde le nom de la place, c'était La Recluse. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce truc, ça, La Recluse ? Puis je me tourne et je vois Église évangélique. Je dis, waouh, ça alors ? Alors, avec son mari, on était là, on s'approche. Et puis je dis, tiens, le verset disait, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et puis alors le frère américain vient et me dit, tu sais, ce verset, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ce verset d'Amos, en fait, fait suite vraiment à un truc de malédiction, quoi. Il dit, toutes les malédictions que j'ai annoncées sur toi, je vais les accomplir, etc. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alors il me disait, c'est bizarre comme verset pour sur une église, quoi. Et puis après, je disais, La Recluse, mais c'est quoi ? Puis on s'approche, l'histoire de la place était écrite, vous savez, parce qu'en fait, apparemment, c'était un monument, une place historique. Et on commence à lire, et en fait ça s'appelait La Recluse, parce que je crois que c'était en 1300 et quelques, à l'époque des jeunes filles, pour gagner le ciel, se faisaient enfermer dans une pièce où il n'y avait que deux fentes, une petite fente pour laisser passer la lumière, et l'autre fente pour qu'on leur donne à boire du pain et de l'eau, et à la fin, dans le truc historique, ils disaient qu'ils l'avaient emmuré, quoi. On était là, on disait... Burk, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis donc ça se faisait aux portes des villes. Et là j'ai dit, mais nous annonçons l'ère de l'agneau, le tout accompli de Christ. Et puis à partir de là, vraiment on a confessé ce que l'agneau avait fait, comme disait Bénédicte, on a dit à la terre, mais tu ne seras plus appelé délaissé, tu es appelé épousé. Et puis vous savez, il y a ce passage dans Ézéchiel 36, qui dit tu t'es prostituée, etc. avec et puis vraiment c'est ce qu'on voyait là, c'est vraiment la prostitution, mais moi je reviens à toi et je vais accomplir mon alliance pour toi. Et la France, elle a eu un temps merveilleux avec le Seigneur au tout début, où vraiment il y a eu des gens, on a eu des hommes et des femmes de Dieu passionnés par Dieu. Et puis après il y a eu plein de choses qui sont venues l'abîmer, mais il y a cette promesse, et on dit c'est maintenant l'ère de l'agneau, c'est l'ère du tout accompli, et on annonçait à la terre, ça y est, ton temps vient, et Christ est ressuscité. Et c'est aussi pour toi. Et au fur et à mesure qu'on a traversé, on sentait, il y a Marie-France qui avait eu l'image d'un sillon, d'un énorme sillon. Et ce sillon traversait la terre, et elle disait, c'était comme le serpent de Moïse qui avalait les serpents des magiciens. Et puis du coup, on voyait ce sillon, c'était vraiment le sillon de l'agneau, et qui allait purifier la terre de tous les mauvais sillons qui avaient été mis là. Et vous savez, au fur et à mesure qu'on descendait sur Marseille, on s'est donc arrêté à Istres,
Et puis la femme du pasteur disait, vous savez, il y a 20 ans, j'étais dans un pays du Nord, en Suède ou en Norvège, et il y a eu là un prophète qui a donné cette parole. Il dit, il voyait la France, qu'il y aurait un temps où il y aurait des compagnies de prophètes qui redescendraient la vallée du Rhône et qui allaient annuler ce qui avait été fait, qui allaient ramener ce que les premiers apôtres avaient semé dans notre pays. Alors elle nous a dit, quand j'ai entendu que vous veniez, je serrais cette parole dans mon cœur depuis des années, je savais que c'est le temps, c'est un temps nouveau où Dieu veut réveiller notre terre. Et puis après, j'ai appris récemment que, vous savez, au moment de la Révolution, eh bien, la Marseillaise qui a été écrite à Strasbourg, eh bien, il y a eu une compagnie de révolutionnaires qui sont partis de Marseille et qui sont remontés jusqu'à Paris en proclamant et en chantant la Marseillaise. Hein, donc, le sang impur abreuve nos sillons, n'est-ce pas? Eh bien là, nous, on est redescendus en disant le sang de l'agneau. Ce sang qui a crié plus fort que tout autre sang. Et on a dit, terre, tu peux être dans le repos. C'est le temps pour toi vraiment de rencontrer ton roi. C'est ce temps de destinée. Et c'est pour ça, on disait la suite. On voit maintenant cette montée sur Paris. On prie pour eux cette semaine, et je voyais, je dis, mais ils portent avec eux l'agneau. Et vous savez, après, de là, ils sont montés jusqu'à Paris. Eh bien, c'est un temps où on croit Dieu, l'agneau de Dieu, alors qu'il est élevé sur notre nation, il va vraiment se révéler. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai vraiment le fait de proclamer à la terre ce tout accompli. Vous savez, moi, je suis une fille du Sud, hein, moitié italienne, moitié espagnole. Donc, au niveau de l'identité, je ressentais cette terre de l'enclave des papes qui avait été complètement tordu dans son identité et qui était comme esselé et désolé. Et puis quand on disait ça, Bénédicte disait, mais moi j'ai eu à cœur de parler à la terre comme à un petit enfant, le rassurer, lui dire, tu sais, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et puis alors qu'on annonçait ces choses, j'avais vraiment ce tout accompli et vraiment cette joie de ce que Christ a fait, de dire, bah oui, c'est pour toi, terre. Et plus je le disais, plus la terre, et bah plus en fait ça le disait à moi-même, à mon âme, à mon esprit, à mon corps. Et vraiment, ça m'a, je dirais, ça m'a touché profondément. Et en revenant au château, eh bien, j'avais envie de le dire à notre château. Je veux encourager les enseignants châtelains qui traversent tous les jours. Hein. Dites à ce château et à cette terre du château que c'est un puits de salut pour les enfants, que c'est vraiment la terre de l'Éternel, que c'est un cœur, vraiment le camp de l'Éternel. Et on a beaucoup dit, donc, par ce sillon, il y a ce passage d'Ésaïe 35, la voix frayée. Dans Ésaïe 35, vous avez à la fois, car des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude, le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau, etc. Et puis après, et il y aura sur cette route, il y aura une voie sainte qui sera frayée, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, car ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et on voyait vraiment, on proclame qu'il y a de nouveau ce temps de révélation qui vient, comme ces premiers apôtres, toutes ces gens qui ont livré leur vie. On dit que c'est un temps pour cette voie frayée, pour que les gens viennent de nouveau à la connaissance de Christ, que c'est le temps maintenant pour la France, c'est le tout accompli, c'est pas elle qui a accompli l'œuvre, c'est le Christ qui l'a accompli pour elle. Et nous disons, France, tu es épousée, tu es appelée épousée, tu n'es plus appelée délaissée, tu es vraiment appelée épousée. Et vraiment que cette révélation puisse nous remplir, nous, et pour qu'on puisse, que ça déborde vraiment pour notre terre. Ah, juste une chose encore, la rencontre, je voyais, on pleurait de ne pas avoir les jeunes avec nous, et on a vécu quelque chose de formidable. Quand on était à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, il y avait David Pierron, qui est le seul élève que nous ayons, qui ait fait tout le collège et tout le lycée. C'était pour lui, à l'époque, où les profs du collège avaient dit, même pour un, on est prêt à faire le lycée en plus de nos heures, parce que Dieu a changé une nation avec un seul homme, avec un Samuel, par exemple. Et donc, tous les profs, d'un commun accord, s'étaient donnés à fond, si ce n'est que pour lui. Alors, bien sûr, après, d'autres sont venus dans le lycée, mais c'est le seul qui a pu faire la seconde, la première et la terminale. Et il habite Rouen. Et figurez-vous que c'est lui qui est à l'origine, dans notre terre de France, des 24-7. Vous savez, le temps de prière 24-7. Et là, il s'occupe d'un mouvement qui s'appelle l'Église émergente. Et on s'est retrouvés à Saint-Paul parce qu'ils venaient, ils étaient plusieurs jeunes, 5, 6 ou 7, je ne sais plus, et ils préparaient un camp Nico. Et du coup, on s'est rencontrés, on leur a demandé de prier pour nous, et on a prié pour eux, et c'est merveilleux. Nos fils, eh ben, on a pu voir, ça vaut le coup l'éducation chrétienne, ça vaut le coup d'obéir à Dieu, parce que quand on voit ce que ces jeunes deviennent, quand on voit ce que Dieu fait avec eux, je me dis, waouh! Et puis qu'on se soit rencontrés là, ils étaient là juste pour 5 jours, nous on y était pour 2 jours, et on s'est rencontrés, et ça, c'était vraiment un encouragement.
Juste, Marlène, tu peux venir 30 secondes ? Marlène, youpi ! On parlait de ces temps où ce que Dieu annonçait, d'une certaine manière, il le révélait. Hein. Donc par rapport à ce qui s'est passé à la Recluse, juste après qu'on est sorti du... donc l'équipe qui s'est sortie de la ville de Valréas, à la Recluse, qui partageait ce qui s'était passé sur cette ville, cette abomination qui avait été faite. En même temps, on marchait avec Jocelyne et Caroline, et donc juste avant de les rencontrer, elle me téléphone. Et puis, voilà.
En fait, je lui ai téléphoné pour lui raconter un rêve que j'avais fait un ou deux jours auparavant. J'étais dans le sud de la France, et puis j'étais en train de rénover une vieille maison avec trois entrepreneurs. Donc, moi, j'en voyais que deux. Je sais qu'il y en avait trois, mais j'en voyais que deux. Et il y en a un de ces entrepreneurs, c'est un enfant. On commence à nettoyer la maison. D'abord, ils ont mis des drains pour enlever toute la vase qui pouvait être dans les sous-bassements. Et puis après, on commence à nettoyer l'intérieur. Et on balaye, c'est assez crade, il y a plein d'araignées ou je ne sais pas ce que... Voilà. Et je commence à prier dans ma tête. Et puis tout d'un coup, l'enfant commence à devenir très agressif envers moi. Et moi, je m'étonne. Et puis j'arrête, quoi, un peu effrayée. Et puis un peu plus tard, il y a tout qui commence à s'assombrir dans la maison. Les volets qui se ferment, les portes qui claquent. Bon, vous pouvez imaginer la scène. Et là, je commence vraiment à prier en langue dans ma tête parce que ça commence vraiment à me faire peur. Et là, l'enfant se réveille encore plus et il commence à avoir les yeux vraiment très foncés, très menaçants. Et il me menace avec son balai. Il avait un balai en main, donc voilà. Mais il s'avançait vers moi et je sentais que je commençais vraiment à avoir peur. Et donc, en fin de compte, je prends l'enfant. Il devait avoir 10-11 ans, donc il n'était pas très grand. Je prends l'enfant dans mes bras comme on prend un fou dans une camisole de force, en fait. Je lui tiens les bras comme ça. Là, je prie en langue encore plus, bien fort d'ailleurs. Et l'autre entrepreneur qui était avec moi, qui était un homme d'âge mûr, lui, il ne savait pas du tout quoi faire. Il était assez affolé. Bref, je prends l'enfant et je commence à vouloir sortir de cette baraque. Et en fait, les portes étaient coincées. Donc, une à une, j'enfonce les portes avec l'enfant dans les mains et en train de prier de plus en plus en langue. Et vraiment, il y a toute la maison qui... On sent l'opposition qui est dedans, qui ne veut pas nous laisser sortir et tout qui est sombre. Bref, on arrive enfin à sortir dans la cour. Là, apparemment, il y a une copine qui était en train de nettoyer la cour et elle aussi toute affolée. Mince, qu'est-ce qu'on fait ? Ensemble, on arrive enfin à sortir, à enfoncer le dernier portail avant de pouvoir sortir du domaine. On sort et là, tout qui s'arrête. L'enfant est redevenu complètement normal. Et je me vois le poser au sol et simplement dire à ces deux entrepreneurs, donc l'enfant et l'homme, vous n'y retournez pas sans avoir une solide équipe de prière. Et donc voilà.
Donc, quand on parle de timing, donc Marlène partage ce rêve, alors qu'elle avait fait la nuit auparavant, quelques minutes avant la rencontre de l'équipe qui sort à Valréas, si on peut mettre ensemble les deux choses, que ce qui avait été fait dans ce lieu, ça avait été emmuré. Voilà, il y avait une abomination qui avait été faite et on passait par là, pas par hasard. Françoise ? Je crois qu'il ne reste que Françoise, me semble-t-il.
Eh bien, Bénédicte et Suzanne et moi, nous sommes restés une journée supplémentaire à Marseille. On avait prévu une journée au bord de la mer, les doigts de pied en éventail, pique-nique. Et puis en fait, il y avait un tel vent, il y avait un tel mauvais temps que on a mangé au restaurant et puis qu'on s'est promené dans Marseille, comme on a pu. Et le soir, on était logés chez Jean et Agnès Pilonel, qui sont des personnes qui établissent une église à Marseille depuis 5 ans environ, à l'Estac. Et ils avaient une cellule justement ce soir-là. Et ils nous attendaient avec impatience parce que je les avais avertis de cette marche et que j'y participais. Et ils étaient vraiment partie prenante dès le départ de cette marche. Et ils attendaient vraiment qu'on leur laisse quelque chose, quoi. Et il y avait Rabba et Aïcha qui devaient pas être là, parce que Rabba était très fatigué, Aïcha avait la grippe. Et ils sont débarqués au milieu de la cellule. Michel, il me dit, mais ça me brûle tellement, il fallait absolument qu'on vienne. Donc, ils sont venus de Aix-en-Provence à Marseille pour assister à cette cellule. Donc, c'était super. Et ils avaient une très, très grande attente par rapport à ce qu'on avait vécu et tout ce qu'on pouvait leur laisser. Donc, Bénédicte avait pris des notes la veille parce que Vito avait raconté un petit peu l'histoire des marches et à l'église de Istres. Donc, elle a très bien rendu ça. Et on leur a laissé Ésaïe 35, parce que c'est ce qu'on avait proclamé sur le port de Marseille, dans plusieurs langues. Et on leur a laissé Ésaïe 35, au présent, pas « il y aura là », mais « il y a là un chemin frayé ». C'était vraiment quelque chose de fort. On l'a écrit dans leur livre d'or, et ils ont vraiment, vraiment reçu cette parole avec une très, très grande conviction. Et je crois que c'est aussi important quand on est accueilli comme ça dans différents endroits, comme à l'Oasis, à Gem, à Istres, de pouvoir laisser des choses spécifiquement au corps de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a un peuple qui est là, qui est en attente, et il y a des gens qui sont ouverts et qui nous ont accueillis, et c'est ce qu'on a pu faire. On a pu laisser spécifiquement, donc on a béni la terre, on a béni les villes, mais on a aussi béni le corps de Christ vraiment ponctuellement par des paroles et par des choses qu'on a vraiment laissées pour les églises. Et ça, j'ai trouvé ça que c'était formidable.
Il y aura encore tellement à dire de ce qui a été vécu, mais c'est vrai que je prends quelques minutes encore pour parler de Saou. Saou, donc ça a été un lieu, je ne sais pas si vous avez vu les photos, à un moment donné, vous voyez un petit village, et puis derrière un cirque rocheux assez incroyable. Et c'est vrai que alors qu'on traversait, on était dans la Drôme, on était à la Bégue, on allait remonter, et on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir, un cirque rocheux, des montagnes incroyables. Il y avait une espèce de majesté, de solennité, quelque chose de sauvage sur ce lieu-là, peut-être un peu comme les prophètes. Et donc ce lieu, pourquoi on y a été? Simplement parce qu'il y avait donc une jeune bergère qui s'appelle Isabeau Vincent, qui a été, c'est pas en Drôme, c'est au Dauphiné, qui était au démarrage d'un des moments prophétiques, une simple bergère. Dieu visite les bergers, David était un berger, il y a quelque chose que Dieu fait avec les bergers. Et c'est vrai que ce moment prophétique, après avoir descendu la vallée du Rhône, on l'a retrouvé dans les Cévennes, mais les choses ont démarré bien plus au nord. Et c'est vrai qu'on a pu être ensemble, prier pour cette terre, recevoir toute la révélation de cette terre qui criait, qui attendait. Il y a eu des temps de pleurs, des temps de gémissements. Mais il y avait aussi cette révélation des cœurs de Père qui était là. Le cœur de Père, le cœur de Père, le cœur de Père. Un temps, on a pu se demander pardon parce que Rossi et Jeannette, d'origine mélonite, anabaptiste, on a pu demander ce qu'ont fait les réformés à ces anabaptistes qui ont dû partir au loin. Parce que c'est vrai que les prophètes, et on appelle de tout notre cœur ce mouvement prophétique à se réveiller, simplement à se réveiller sur les excès qu'il y a eu. Il y a des bonnes choses qui sont passées, mais en même temps, il y a des compagnies de prophètes qui ont aussi tué d'autres familles, qui ont tué des villages. Alors parfois, il est juste de demander pardon. On est des enfants de la réforme, nos fils et nos filles, nous sommes les fils et les filles des pères qui ont marché devant nous, mais il est juste de reconnaître que les choses qui n'étaient pas bonnes. Et sur ce terrain-là, on a aussi goûté du miel, comme étant cette qualité, cette révélation prophétique du miel de lavande qui était de la terre là-bas, qu'on a acheté dans une petite boutique là-bas en haut sur la montagne, enfin c'était une espèce de ferme. Et en goûtant le miel, on dit, mais on va goûter les bonnes choses que Dieu va nous donner, mais ce miel va devenir aussi amer dans notre vie. Parce qu'il y a pas les mauvaises choses, la persécution qui va venir avec. Quand tu prophétises, t'es pas toujours accepté. Et à ce moment-là, par exemple, Françoise, qui était là, tout d'un coup, a commencé à sentir des douleurs par rapport à la Pologne, à la Russie. Quand on veut goûter à ce que Dieu veut donner, il y a tout ce qui est bon qui est là, mais il y a tout le côté amer qui arrive aussi. Et voilà. C'est difficile, encore une fois, d'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Mais on croit que vraiment, quelque chose a été accompli sur cette terre. Une réconciliation. On a parlé tout à l'heure, je pensais que Bénédicte avait parlé du château neuf de Galaure. Avant même de commencer à marcher, on a prié. Vous savez, on avait donné ici une image de grande porte qui était fermée. Et aussi Marlène, un jour avant la marche, nous avait passé un verset. C'est Proverbe 18-19, me semble-t-il, ou 19-18, où il est parlé que les querelles des frères sont comme une ville forte, et que c'est des verrous
sur les portes. Et les querelles des frères, il y en a eu, entre réformés, anabaptistes, mais aussi entre réformés et catholiques. Et pour ça qu'on voit très bien connexion avec Marseille, parce que Marseille, c'est aussi travailler dans l'unité, pas l'écuménisme, vraiment une unité de cœur. Et on a commencé à se demander pardon aussi pour tout ce que, en tant que réformés, on a pu faire, ces jugements. Est-ce qu'on voit les catholiques comme étant des frères, ou simplement comme étant des ennemis d'un autre mouvement que... Mais Dieu, il a des fils et des filles dans ce mouvement-là. Et moi, je n'ai pas à juger ce mouvement, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait. Et par exemple, Bénédicte, si elle est ici, et donc, parce que ses parents, en tant que fiancés, étaient dans un endroit qui s'appelle Château de Galore, où il y a quelque chose de très fort qui s'est passé là-bas, il y a tout un réveil qui était là. C'était catholique. Alors, elle coûtait très marial. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ses parents, là-bas, étaient fiancés, ont eu à cœur, tout à coup, de fonder leur famille sur Christ. Et si Bénédicte était là, elle a pu prier là-bas. C'est parce qu'elle a été fruit de ces catholiques. Alors, c'est aussi un temps de réconciliation entre frères et sœurs de tout mouvement. C'est pas simplement nous. Et c'est ça aussi, porter l'agneau. L'agneau ne va pas faire... toi, tu es de ce isme-là, je ne te veux pas. Celui-là, je ne veux pas. C'est tous les ismes ensemble. J'ai tellement de choses quand j'étais là-bas. Oui, j'ai parlé de la pluie, les vents, les brouillards. C'était quelque chose d'incroyable, notamment à un moment donné, on a marché, il était tellement beau. Et j'ai dit, mais il me faut la pluie. Envoie la pluie, mais c'est pas mon cri. Et dans la nuit, il y a eu ce magnifique orage qui est tombé. Et quelqu'un m'avait partagé de la veille un verset où il disait, mais c'est Comélie là qui court, et puis un nuage qui est là, et je me suis réveillé pendant la nuit pour aller aux toilettes, et puis j'ai vu que ça avait commencé à... On était dormi dans une caravane, et je dis bon, peut-être que j'y aille avant que ça commence à exploser, là, vraiment, et au moment où je commence à sortir, ça commence à secouer, j'ai dit, oups, première goutte, on commence à tomber, j'ai été en courant, revenu en courant, avant que la pluie n'arrive, mais ça a été incroyable, et le lendemain, on a eu on l'a vu au loin dans ma centrale, et dans les Préalpes, les montagnes couvertes de neige. Et je vous invite à relire le psaume 148, où il est parlé des tempêtes, nuages, vents, où Dieu est vraiment très présent dans tous ces lieux. Reviens sur cette bénédiction des pères et des fils. Vous savez, c'est vrai qu'on était comme des pères. À un moment donné, mais ils sont où nos fils? Et on revient sur cette équipe où on a pu prier. À un moment donné, avant de partir, on était prêts. Et puis on a dit, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que en tant que fils, vous voulez nous bénir? On a demandé d'abord leur bénédiction, les cœurs des pères retourneront vers leurs fils et les fils vers leurs pères. On a vécu cette alliance exister sur la terre. Et je rappelle que si Dieu ne fait pas cela, c'est la terre qui est maudite. C'est le pays qui est maudit. Et on a commencé à voir cette réconciliation continuer à grandir et à grandir et à grandir. Et ces jeunes, on peut considérer parfois que les jeunes, bon, ils n'en ont rien à secouer des adultes. Ils pleuraient. Simplement parce que on avait besoin d'eux et que nous, on avait besoin d'eux. Et qu'on a pu les bénir. Les trésors cachés. Vous savez, quand on marche, il y a parfois des surprises. Et par exemple... À un moment donné, on a marché dans le premier jour et on a trouvé, pas loin de Lyon, dans un petit village de Serpèze, je ne sais pas comment ce qui s'appelait, mais il y avait des espèces d'énormes containers d'huile, de pétrole, vous savez, là où on fait comme les raffineries de pétrole. Et c'était dans un coin perdu. C'était pas sur la route de Lyon. Et on dit, mais Dieu a des richesses, des trésors cachés à donner sur la terre de France. Et c'est là. Et il y a suffisamment d'huile, comme dans l'histoire des vierges sages, des folles, pour bénir cette terre de France. On a marché aussi, il y a un jour, on s'est pris une de ces douches, vous savez, en 5 minutes, t'imagines, tu prends tes habits, tu vas sous la douche. Et on a marché, on n'a pas fait de pause à midi, on a marché parce que on était trempés. Le plus dur, c'était de ressortir de la voiture parce qu'on était retrempés. Donc on a marché, on s'est arrêté vers 2-3 heures, demi-tour, on était à l'oasis, on a pu allumer un bon feu de cheminée. Waouh, se réchauffer. Il y avait cette histoire de communion cet après-midi-là. Et cet après-midi-là, on a aussi pu regarder cette vidéo qui est passée à la télévision en décembre sur ce que Pourbou, à côté de Marseille, a fait pour les Juifs. Je ne sais pas combien ont vu cette vidéo. À part ceux qui ont fait la marche, combien? L'Exodus. Nous étions tous sur l'Exodus. Combien ont vu cela? D'accord. Là-bas, tu l'as vu? Écoutez, regardez cela. Parce que l'ennemi nous ment toujours sur ce qu'on fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Je veux voir si on peut arriver à le dupliquer, si on peut le passer. À ce moment-là, vous verrez qu'en 1947, la terre de France a été une des seules nations au monde à bénir Israël. 1947. Elle était là pour aider ses juifs à partir. Et dans le reportage que vous verrez, il était au point où le gouvernement français, les douaniers, il y avait une jeune femme qui arrive avec un passeport, un vrai passeport que, entre guillemets, je ne sais plus quel pays, Colombie, a donné les sceaux pour qu'ils fassent eux-mêmes les passeports. Ils arrivent et puis ils regardent cette jeune dame. Sur le passeport, c'était un barbu qui était sur la photo. Et ils fermaient les yeux. Ils fermaient les yeux. La nation entière, parce que tout devait secret, Israël n'existait pas, a fermé les yeux, a complètement propulsé Israël dans sa destinée. Ce bateau est parti. Il y a les horreurs qui ont été commises. Ce bateau a été un bateau résistant. Pourbout se réveille. Parce que ce bateau, pour faire très courte l'histoire, on renvoie ces juifs en France. Et ils sont là pendant 3 semaines en plein cagnard avec parfois simplement un slip sur eux dans des conditions humanitaires incroyables. À ce moment-là, la nation de France se réveille. La nation de France se réveille et le monde se réveille sur ce que fait Israël. Et à ce moment-là, l'idée d'Israël va commencer à être vraiment entreposée à l'ONU et quelques mois plus tard, l'ONU va dire oui, il y aura un partage et Israël va pouvoir naître. Mais quelque part, la notion de France a cette capacité à être une maternité pour les autres nations. Et c'est devenu une réalité. La nation de France est une maternité pour les autres. On est capable d'engendrer la vie, parfois la mort. Et on a vu que parfois les dictateurs sont nés en France. Pol Pot, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé au Vietnam avec les Khmer Rouges. Regardez-le. Nos dictateurs ont été parfois de ce monde présents, ont été enseignés. Et là, on a pu voir à combien, et on a pu lire à pourbout le discours de Shimon Peres, qui rappelle combien la France a béni. Parce qu'il y avait l'Exodus, mais il y avait aussi le besoin d'armes. Il y avait l'embargo. Le seul pays qui a trouvé le moyen de fournir des armes à Israël pour se défendre contre 6 ou 7 armées, c'est la France. Et on a pu proclamer, pas nos paroles, ce que cette... Désolé pour la longueur. On va s'arrêter. Et c'était solennel pour vous. On n'a même pas tellement envie de parler parce qu'on a simplement dit les paroles de Shimon Peres aujourd'hui à la nation de France. Il dit, Terre de France, tu nous as bénis. Terre de France, merci. On a besoin d'entendre que les vérités de Dieu, les vérités sur notre nation, pas que les mensonges de l'ennemi. Alors c'est vrai qu'il y a eu des réveils. On se dit souvent, il ne s'est rien passé. Mais les premiers pères, on a pu relire certaines lettres des premiers pères. On a l'impression qu'on est en train de lire les paroles des actes. C'était la même chose. Il y a eu, en France, on a rappelé Valdo, 12e siècle, les compagnies de Vaudois, il y a eu le moment prophétique, la réforme. Mais on rappelait qu'entre les deux guerres, il y a eu tout un mouvement et un réveil de la part de Dieu en France, sur la terre de Drôme. Qui est encore au courant de ces choses-là? Ce sont les trésors qu'on nous a donnés. On parlait des Vaudois, la terre de France bénie. Ce sont des gens qu'on leur a donné un moment une terre un peu désolée du côté de Cavaillon parce qu'elle causait persécution. Pour chacun de ces paysans qui étaient là, le Seigneur touchait 4 écus par an d'impôts. Après quelques temps, à cause de ces hommes et ces femmes qui étaient là, le même Seigneur touchait 800 écus d'impôts pour chacune de ces personnes. On a multiplié l'impôt par 200, c'est-à-dire que le bénéfice par 200. La terre a été bénie. Et cette bénédiction, on la réclame tout à nouveau, pas seulement la bénédiction dans l'Église, mais la bénédiction pour la terre de France, richesse, créativité, production, maternité. On a parlé très rapidement de Marseille. On était à Marseille, il y a un projet méditerranéen. Il faut continuer à prier pour le président. Ce projet méditerranéen qui part en Tunisie, là. Il y a vraiment un cœur pour la Tunisie et pour la Méditerranée. Quelque chose peut naître. Quelque chose peut naître en dehors des guerres. Et à Marseille, on était sur le port. Vous savez, on cherchait l'hôtel de ville. On était juste arrêté devant. On ne savait même pas que c'était là. Et on a pu prier, briser cette ligne-là, entre guillemets. Et on a prié là-bas, on a proclamé Isaïe 35 en Kabyle, parce que Rabat était là, en américain, en anglais, en espagnol, en italien, parce qu'on croit que cette porte, en espagnol, italien, français, cette ville est une nation, est une porte pour les nations. Et il y a un verrou là-bas qui doit sauter. Et alors, je ne sais pas si c'est un signe positif ou pas. Le lendemain, il y a une élection à la communauté de l'urbanisme à Marseille. La grosse surprise, c'est que normalement, c'était un personnage de droite. C'est un Mucelier qui aurait dû être élu, parce que normalement, il y a une majorité de droite. Et la surprise générale de tout le monde, de la droite, y compris de la gauche, c'est un monsieur de gauche qui a été élu. Alors, je ne suis pas contre droite-gauche. C'est vrai que, dans certains côtés, j'apprécie pas tellement Mme Ségolène Royal. Mais quelque chose s'est passé et il y a eu un changement clair d'autorité sur la ville même de Marseille. Alors on dit que c'est presque plus important que le maire, parce que cette personne-là a un pouvoir sur toutes les communautés de communes de Marseille. Et ça s'est passé le jeudi, le lendemain du jour où on a prié, à la surprise générale. Ils ne savent pas comment c'est arrivé ce truc-là. Ils disent que c'est pas possible. Mais c'est arrivé. Et j'ai juste après cherché, essayé de savoir la valeur de cet homme. J'ai beaucoup de mal à trouver. Apparemment, c'est un homme qui veut essayer de gouverner de manière ouverte. Donc, voilà, prions pour lui. Voilà, on peut s'arrêter là. Il y aurait eu énormément, énormément encore de choses à dire et à partager. Mais il est, je crois, midi, pas loin de midi et demi et... 38. Merci.
Oui, je crois qu'on veut applaudir le Seigneur. Et je crois qu'au-delà de tout ce qu'on a entendu, eh bien, ce que son bras accomplit est encore beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que tout ce qu'on a pu entendre. Je vous rappelle, cette équipe qui va à Paris, n'oubliez pas de prier pour eux, priez pour Luc aussi, qui est toujours au Québec. Le culte, c'est ce soir, autour des 16 heures.